Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Plus dans cette émission spéciale depuis le collège Pierre et Marie Curie de Liévin et en public. Des élèves de la classe de 5e F ont réalisé un web documentaire intitulé « Du noir au vert » qui vient tout juste d'être mis en ligne sur le site du réseau Canopée, le réseau de création et d'accompagnement pédagogique dans le cadre de la 4e saison de Raconte ta ville. Nous reviendrons un peu plus tard lors de cette émission sur ce qu'est le réseau Canopée. À mes côtés, Cécile Mort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante au sein du collège et c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet de web documentaire. Du noir au vert, c'est donc un web documentaire et un projet porté tout au long de l'année par les élèves et les enseignants du collège Pierre et Marie Curie de Liévin, dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie également d'un certain nombre d'invités que vous allez découvrir au cours de cette émission. Mais avant cela, un petit message d'une consoeur de France Inter à destination des élèves du collège.
Bonjour, je suis Patricia Martin, je travaille à France Inter, donc une radio.
Ah, on a un petit souci technique, il fallait bien que ça arrive maintenant. Voilà, donc on va réécouter tout de suite ce message qui était donc délivré par notre consoeur de France Inter. On va vous retrouver ça tout de suite, bien évidemment. Voilà, ce sont les soucis techniques. On commence à avoir l'habitude des soucis techniques, mais en tous les cas, on va retrouver ça d'ici. Écoutez quelques instants. Voilà ce message qui a donc été prononcé par notre consoeur de France Inter. C'est tout de suite.
Bonjour, je suis Patricia Martin, je travaille à France Inter, donc une radio publique qui appartient à Radio France, et je suis en charge du 6-9 du week-end, et je voudrais peut-être pas être la marraine, mais en tout cas de cette opération, mais en tout cas souhaiter plein de bonnes choses et beaucoup de chance et de ténacité, de perspicacité, il en faut pour exercer ce métier. À nos chers élèves donc de 5e qui vont s'exercer à l'interview. C'est pas un exercice facile, c'est très intimidant, mais c'est tout à fait passionnant parce qu'on rencontre des gens qui ont souvent des tas de choses à dire, et de toute façon, même quand ils n'ont rien à dire, il faut arriver à le leur faire dire. Bonne chance à tous.
Et comme c'est vrai tout cela, voilà, donc sur ces paroles de notre consoeur de France Inter, je m'adresse à présent à Cécile Mort. Comment est venue l'idée de ce projet de web documentaire ?
Alors ce projet, je suis tombée dessus totalement par hasard, sur Twitter même il me semble, où je l'avais vu annoncé. C'est un projet particulièrement exigeant, mais je vais peut-être demander tout de suite à Serge Gauduin, qui a accompagné le projet pour l'atelier Canopée d'Arras, de nous expliquer ce qu'est au départ un web documentaire avant d'expliquer ce qu'est devenu celui de la classe.
Oui, bonjour à tous. Alors le web documentaire, c'est une narration interactive multimédia et la diffusion se fait uniquement par le web. Voilà pour la définition la plus simple possible d'un web documentaire.
Donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans un web documentaire ? Quel type de contenu multimédia on peut mettre dans un web documentaire ? Et qu'est-ce qui était attendu dans le cahier des charges de Canopée pour Raconte ta ville ?
Alors, beaucoup de choses au niveau du cahier des charges. Bon, le contenu est à l'appréciation des enseignants. Un contenu multimédia, donc, peut être constitué d'énormément de choses, de sons, d'images animées, donc, de vidéos, etc. Le projet, encadré par Canopée, et donc, ici, l'atelier Canopée d'Arras, répond à un cahier des charges bien précis que l'enseignant et l'équipe qui s'engage dans le web documentaire doit répondre à ce cahier des charges bien précis.
Et c'est là que les ennuis commencent, puisque le cahier des charges, on l'a un petit peu explosé, en fait. Puisque, pour tout vous dire, on était censé faire des séquences qui devaient durer entre 1 minute et 1 minute 30, et on se retrouve avec des séquences légèrement plus longues, ce qui a dû entraîner un certain nombre de négociations avec Serge. Donc, le projet tel qu'on l'a envisagé ici au collège, On est parti en fait sur l'idée de raconter sa ville. Pour raconter sa ville, il fallait que cette ville ait quelque chose à dire. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait le projet était taillé pour le territoire, puisque on est à la fois une ville située au pied des terres jumeaux du 11-19, qui est une ville qui a donc un passé minier très important, mais qui depuis déjà quelques années est devenue un pôle d'excellence de développement durable. Et on avait donc, puisque la saison 4 de Raconte ta ville a été sous-titrée Une ville durable, on avait tous les éléments en fait à la maison pour raconter une histoire autour de la mine et de la ville durable. Donc ensuite il a fallu trouver une classe. Je vous passe les détails. La classe avec laquelle j'ai travaillé, c'est une classe que je n'avais pas en cours. Donc je remercie tous mes collègues qui ont travaillé avec moi et qui m'ont très généreusement prêté des heures de cours pour que je puisse mener le projet avec eux. Et puis ensuite, il fallait trouver l'histoire et le personnage principal de cette histoire. Et c'est là qu'on s'est souvenu qu'en fait, il y avait dans le patio du collège une berline. Alors ça fait rire tout le monde parce que quand on dit berline, et ben dans la tête de tout le monde, c'était une grosse voiture qui va très vite sur autoroute. Et pas du tout un wagonnet de mine comme c'est le cas ici au collège. Cette berline, en fait, elle faisait un petit peu tapisserie, elle faisait pot de fleurs depuis des années, plus personne ne la regardait vraiment. Et on s'est dit du coup que on allait lui redonner vie, on allait lui donner la parole, on allait en faire un personnage à part entière. On a un petit peu travaillé là-dessus. On a décidé qu'elle allait s'appeler Gervaise. Et c'est ce personnage-là qui va emmener les élèves de la classe, qui va raconter son histoire du passé minier jusqu'à ce qui est devenu le carreau de fosse aujourd'hui, c'est-à-dire donc un lieu d'excellence en matière de développement durable.
Alors, avant de continuer de parler de manière vraiment plus approfondie du web documentaire, je vous propose de prendre un peu de hauteur tout de suite avec notre invité que nous avons par téléphone. Il s'agit de Philippe Fruitier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous donc aujourd'hui hein, pour justement échanger. Vous êtes photographe aérien depuis plus de 20 ans. Vous avez publié plusieurs livres, dont un sur le bassin minier intitulé « Le bassin minier entre ciel et terre » avec Marie Tranchant aux éditions Ouest France. Alors, première question, Philippe Fruitier, est-ce exact que vu du ciel, il y a plus de vert que de noir sur notre territoire?
C'est vraiment un élément marquant, je crois, de notre territoire. Bon, je vais essayer de... J'entends en écho ma voix, mais c'est pas grave. Oui, c'est vraiment un élément marquant de notre territoire, et du bassin minier en particulier, c'est que, bon, moi j'ai une position privilégiée qui est la position des airs, et ça permet d'avoir une vue d'ensemble et d'avoir surtout une vue de l'évolution du bassin minier. Et donc ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ce beau métier de photographe aérien. Et ben, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait étonnant, la vitesse à laquelle le bassin minier change et à laquelle les terris virent du noir au vert, effectivement, mais pas seulement les terris. Ce qui m'a marqué, par exemple, c'est la ville de Lens, l'agglomération de Lens des Vins. Quand on la survole, on voit du vert, on voit beaucoup d'arbres. Et je pense que les gens ne s'imaginent pas ça. C'est vraiment quelque chose. Bon, j'ai la chance de voir les choses d'en haut. J'ai eu la chance de le partager au travers d'un livre qui a été fait en 2013. Mais je pense qu'on pourrait refaire des choses aujourd'hui. Et les choses ont bien évolué. Bon, il y a cette couleur, effectivement. Et puis, il y a l'activité humaine. Parce que ce vert, il permet le loisir. Hein. Il y a beaucoup de lieux de loisir. Il y a beaucoup de lieux d'entreprises qui se sont faits dans le bassin minier. Je ne parle pas des lieux de culture, évidemment, avec le Louvre-Lens. Donc, tout ça, finalement, est à prendre comme une formidable opportunité à mes yeux, hein, à mes yeux de simple photographe. Moi, je le vois comme une vraie opportunité de développement et de transformation que je trouve plus ou moins assez rapide, quand même.
Philippe Fruitier, qu'est-ce qu'on voit du ciel qu'on ne verrait pas depuis le sol, depuis la terre?
Bien, bah écoutez, c'est vrai que quand on est au ras des pâquerettes, on a un tas de choses qui nous bouchent la vue. Alors l'eau aussi est très présente hein, quand on survole le bassin minier. Ça, on n'a pas toujours accès quand on est au sol. Et puis, véritablement, c'est ces lieux de nature, quoi, en fait. Hein, l'expansion verte est vraiment très importante. Et je pense quand on est en voiture, quand on est peut-être un peu plus, bon, bien sûr, à pied, quand on va se balader sur des sites comme le 99 bis ou le terril du Pinchonval, on est dans un autre monde, on est dans la nature. Donc là, on se rend bien compte que la nature a pris vraiment ses droits. Mais cette position aérienne permet vraiment de voir l'ampleur des choses.
J'imagine que le paysage est très changeant, hein, d'un vol à l'autre.
Pardon, excusez-moi, je vous entends.
J'imagine que le paysage est très changeant d'un vol à l'autre.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a des options qui ont été prises aussi sur le bassin minier. C'est-à-dire que par endroit, on a pris une option économique, logistique, je pense à Delta 3, par exemple, où là, on est véritablement dans de l'économie. À d'autres endroits, c'est un mix entre la culture et puis la nature. Je pense au 99 bis, où les habitations sont très présentes aussi, hein, qui sont très vertes aussi, parce qu'on a les jardins qui sont très présents dans l'habitat minier. Donc c'est un paysage très très changeant. Bien sûr, les cités minières. Alors moi, je me suis découvert une passion pour ça parce que j'avais pas cette notion-là. Je suis un fils d'agriculteur du sud arageois, donc je suis pas du tout de la région du bassin minier, et j'ai découvert ça en travaillant aussi pour le dossier UNESCO du bassin minier, et je me suis pris de passion pour toute cette diversité. C'est véritablement un patrimoine extrêmement riche, et la meilleure preuve, donc c'est notre classement UNESCO que nous avons eu il y a quelques années maintenant.
On va en reparler tout de suite après, d'ailleurs, avec Gilles Briand. Vous parliez des cités minières qui, vu du ciel, doivent ressembler vraiment à des belles lignes bien droites comme tracées à la règle. Est-ce que ce soit ces cités minières ou les terrils, les chevalements, est-ce que tout ça vous sert de point de repère quand vous êtes en haut, quand vous êtes en vol?
Ah oui, bien sûr, oui. Bon, évidemment, il y a les deux jumeaux du 11-19 à Los Angeles qui sont des points de repère pour tous les aviateurs. Et quand le temps est clair, on peut les voir à partir de Dunkerque sans problème. Donc effectivement, ce sont des points de repère importants. Et puis ce croissant du bassin minier, c'est véritablement aussi un point de repère très très important par rapport aux plaines de l'Artois, par rapport au paysage plus du côté de Lille. Mais bon, voilà, ce sont plein de points de repère. Alors bien sûr, les chevalements, bon, malheureusement, ils sont plus très très nombreux et ils manquent un peu, et puis ils sont peut-être pas tout à fait assez hauts non plus pour faire des points de repère importants à travers toute la région. Mais je pense en particulier aux deux terrils jumeaux du 11-19 qu'on confond souvent d'ailleurs avec les deux terrils de Bruay en Artois. Mais bon, voilà, il y a des aviateurs qui ont eu une désagréable surprise en pensant voir les terrils du 11-19, et en fait ils se dirigeaient vers Bruay. Voilà. Ce sont des petites anecdotes.
Eh bien, en tous les cas, Philippe Frutier, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Peut-être pouvez-vous nous indiquer votre site internet si on souhaite plus d'infos sur votre travail.
Oui, alors c'est Frutier, alors Frutier, Frutier Alpimage, tout en un mot, .com. Voilà. Et bon, vous y découvrirez de belles photos du bassin minier, mais aussi bien d'autres choses. Voilà.
Eh bien, merci. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Et tout de suite, eh bien, nouvelle invitée, Cécile.
Oui, Gilles Briand, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de faire un crochet par notre plateau. Vous avez un emploi du temps très chargé en cette période anniversaire. Vous êtes directeur d'études développement opérationnel à Mission Bassin Minier. Et avant de démarrer, on voudrait vous faire écouter quelqu'un.
De quoi je suis le plus fier? D'avoir vu un jour à Saint-Pétersbourg en Russie, devant la planète entière, de devenir le premier bassin classé au monde. Je peux mourir l'esprit tranquille, j'ai fait ma part de rendre au monde de la mine sa dignité.
Vous avez reconnu, bien sûr, Jean-François Caron.
Oui.
Maire de Lens-en-Goële, que j'ai eu la chance d'interviewer en janvier. Vous pouvez nous raconter rapidement cette journée de juin 2012 à Saint-Pétersbourg?
Alors effectivement, j'ai bien reconnu Jean-François Caron. J'avais pas moi-même eu la chance d'être à Saint-Pétersbourg en juin 2012, mais c'était l'aboutissement d'un très très long travail qui a duré une bonne dizaine d'années, avec quelques rebondissements à la fin, puisque peut-être vous vous rappelez, on avait prévu de passer sur la session précédente, et puis l'UNESCO c'est aussi un grand jeu politique, et donc pour des raisons d'arbitrage politique, notre dossier avait été décalé d'une année, ce qui nous a valu la chance d'avoir deux expertises successives par les experts de l'UNESCO, ce qui nous a permis d'ailleurs de confirmer que le travail avait été bien mené. Et cette journée, effectivement, elle était assez historique, parce qu'on intervenait dans une catégorie qui était plutôt très récente dans le classement de l'UNESCO, et qui est une catégorie très complexe, parce que en fait, on classe pas un monument tout seul au milieu de pas grand chose. On a vraiment classé un paysage, et le bien qu'on a inscrit à l'UNESCO, il est composé en fait de 353 éléments très divers, des cités minières, il y en a 124 qui représentent 24 000 logements. On a des terris, on a des chevalements, on a des équipements sociaux, des lieux évidemment d'extraction. Et tout ça, ça rend peut-être la chose un peu plus compliquée que quand on classe un château, une église, ou le Mont-Saint-Michel, ou le Taj Mahal.
On fête donc dans 15 jours les 5 ans de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité. Alors, sans cette inscription UNESCO, on ne sera peut-être pas autour de cette table aujourd'hui, et on n'aura probablement pas fait le même webdoc. Cette reconnaissance en tant que patrimoine mondial, est-ce qu'on peut dire qu'elle a déclenché, accéléré la transformation de notre territoire? Que ça l'a aidé à passer du nord au vert?
Alors, ça a sans doute accéléré, mais avec ma vision d'urbaniste, je sais pas si les choses auraient été totalement différentes sans l'inscription. C'est-à-dire que j'aurais continué à croire que les éléments hérités de l'histoire de l'exploitation du charbon étaient un véritable héritage au sens noble du terme, une vraie qualité pour notre territoire. Donc évidemment, la reconnaissance internationale par l'UNESCO, ça tout d'un coup on devient un point sur la carte du monde, ce qu'on n'aurait sans doute pas été sans cela, même si on a aussi, c'est une double chance, le Louvre Lens. L'inscription à l'UNESCO, c'est pas quelque chose d'automatique. Il n'y a pas de caractère juridique à cette inscription, et il n'y a surtout pas de manne financière qui arrive directement avec l'inscription à l'UNESCO. Pour moi et pour beaucoup de mes collègues à la mission Bassin Minier, l'inscription au patrimoine mondial, c'est un engagement collectif, celui de la France, de protéger un bien qui est devenu un bien commun à toute l'humanité. C'est-à-dire qu'on habite en Amérique, en Afrique ou en Asie, nos terrines, nos cités minières, nos chevalements sont devenus un bien commun. Et donc on est en devoir de les protéger. Mais on n'est pas juste dans une logique de protection, de mise sous cloche, surtout pas. On est vraiment dans une logique qui est de dire tout ce patrimoine-là doit nous servir à reconquérir, à recomposer, à requalifier nos territoires. Et on a cité quelques sites tout à l'heure dans le cadre de l'interview de Philippe. Le site du 99 bis à Wany, par exemple, c'est un site qui est à la fois un site patrimonial, mais c'est un site qui vit par un projet culturel autour de la musique. Le Louvre à Lens, il est installé sur une ancienne friche minière. Les terris sont devenus des lieux de biodiversité retrouvés, reconquises, sont devenus des lieux de pratiques sportives. Et donc on est vraiment dans un paysage, au sens de la globalité du système culturel, issu d'une activité humaine, évolutif, c'est-à-dire qui a mis longtemps à se construire, hein, c'est 150 ans, 170, 180 ans d'histoire, 270 si on prend les deux extrêmes, et vivant. Et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on n'est pas au milieu du désert. Il y a des gens, des habitants, avec leurs aspirations, leurs souffrances, leurs difficultés, et donc c'est tout ça qu'on doit prendre en considération. C'est pour ça que c'est un long processus que de pouvoir remettre en route ou continuer la remise en route du bassin minier, et que l'UNESCO est un élément qui accélère, qui donne de la visibilité, mais il n'y a pas de baguette magique.
Maxence ?
Concrètement, depuis l'inscription, que s'est-il passé en 5 ans ? Quelles retombées il y a eu ?
Alors ça aussi, c'est une question très compliquée. La question des retombées est une question qui est toujours très difficile à mesurer. Je pense qu'on est dans un temps trop court pour en donner des effets très concrets.
On parle d'une vingtaine d'années, vraiment. Hein,
pour voilà. Le temps de l'aménagement, c'est un temps qui est long. Aujourd'hui, vous dire combien il y a de gens en plus, aujourd'hui, on ne sait pas le dire. Par contre, de manière empirique, par la présence qui est la nôtre sur le terrain et les terrils en particulier, c'est des sites qui sont de plus en plus fréquentés. Moi, je travaille directement sur le carreau de fosse de 99 bis à Oigny. Il y a plus de monde depuis l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial. Il y a plein d'endroits qui développent des logiques de pratiques et de visites touristiques et ça se met en route. Mais on est vraiment dans une logique qui est longue. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il y a quand même eu un certain nombre de choses. Alors là, je vais être obligé de rentrer dans des choses un peu techniques, mais c'est notre métier. On a fait, par exemple, ce qu'on appelle un programme de cités pilotes. On a identifié 5 cités minières sur lesquelles il y avait beaucoup de travaux de réhabilitation de logements et de rénovation d'espaces publics à mener. On a mené à terme ce programme pendant cette période de 5 ans. Et parce qu'on était inscrit au patrimoine mondial, il y avait une exigence forte en matière de traitement de ces cités. Et ça nous a permis de mobiliser des financements spécifiques. On a construit finalement une espèce d'ingénierie financière. On a identifié des crédits pour rendre possible ces opérations. On a, dans le cadre de la mobilisation des crédits européens, on a réussi à flécher des crédits sur ce patrimoine, parce qu'il était inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, au patrimoine mondial de l'UNESCO, pardon. Donc voilà, il n'y a jamais d'automaticité, mais l'UNESCO, ça crée une exigence, et dans l'exigence, en général, on fait toujours des projets qui sont meilleurs.
Jérémy. Donc, Monsieur Caron, vous avez parlé de la gestion des eaux de pluie dans les cités. Monsieur Calais, du CD2E, nous a expliqué le projet Réa Futur qui va rénover entre 200 et 2000 maisons de coron avec des écomatériaux. Nous, on est plusieurs à habiter dans des maisons des mines. Pourquoi, pour vous, en tant qu'urbanisme, la question du logement, c'est un sujet important?
Quand on a inscrit dans le périmètre du bien patrimoine mondial 24 000 logements, c'est nécessairement une question importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que c'est une entité négligeable. C'est du patrimoine qui est là vraiment très vivant au sens premier du terme. Il y a des gens qui y habitent. Et notre parti pris, c'est de se dire que tout le travail qu'on va mener en termes de qualification de cet habitat, il sert, au-delà de l'habitat minier, à toute la question de la rénovation de l'habitat ancien, qui est une question cruciale en France si on veut tenir tous nos objectifs internationaux de réduction, de consommation de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Et tout ce qu'on pourra faire en matière de réhabilitation de ces logements miniers profiteront directement, évidemment, aux gens qui les occupent, contribueront de maintenir ce parc comme un parc potentiellement attractif pour des populations futures, encourageront la mutation de l'économie du bâtiment en favorisant le recours à des techniques nouvelles. Je vais prendre un truc tout simple. Hein. Pendant des années, on a isolé des logements avec des matériaux très coûteux, très énergivores, comme la laine de verre ou la laine de roche. Peut-être que demain, ou même déjà aujourd'hui, il faut utiliser ce qu'on appelle des matériaux biosourcés, dont le cycle de vie est plus acceptable et plus durable. Et on peut utiliser d'autres types de matériaux. La gestion des eaux pluviales, c'est un autre exemple. Pendant des années et des années, on a mélangé les eaux usées et les eaux pluviales dans des mêmes tuyaux. Tout ça débordait allègrement, générait des inondations, etc., etc. Aujourd'hui, on a déconnecté les deux. Et dans les cités minières dont vous parlez, Jean-François, on gère maintenant les eaux pluviales en surface, dans des espaces qui, en même temps, sont des espaces paysagers. Et donc, on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, on répond à une question technique et on qualifie un espace public.
Alan.
Vous connaissez bien la région. Vous avez travaillé, je crois, sur le schéma de la trame verte du bassin minier. C'est un sujet qu'on n'a pas pu aborder dans le webdoc. De quoi s'agit-il?
Alors, au départ, la trame verte et bleue, c'est un dispositif qui peut paraître un peu complexe, mais c'est en fait la mise en relation d'un ensemble de sites à caractère paysager qui répondent à des fonctions diverses, encourager, développer la biodiversité, permettre les aménités, les loisirs de proximité, développer les sports de nature. On l'a dit tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui fait la caractéristique finalement de notre territoire? Si on n'avait pas ce patrimoine minier aujourd'hui, qu'il soit inscrit au patrimoine mondial ou pas, si on n'avait pas ce patrimoine minier, on serait un territoire d'une grande banalité. On aurait des espaces urbains comme on en a un peu partout. Et ce serait difficile de travailler sur de l'attractivité, du rayonnement territorial. Ces sites, aujourd'hui, ils nous permettent de se différencier. Et quand vous êtes allé vous balader sur un terri, et je sais que tout le monde n'y est pas allé, et c'est pour ça que j'invite tous les auditeurs à aller sur les terris, c'est des très beaux espaces, y compris les gamins des collèges, je suis sûr qu'ils ils n'y sont pas tous allés.
Mais nous, maintenant, si.
Vous, maintenant, si, je le sais bien. Tous ces sites sont vraiment des sites qui, et Philippe le disait très bien tout à l'heure, on n'en a pas forcément la conscience pendant longtemps dans l'inconscient collectif. C'est resté des sites qui étaient interdits, dont on savait pas très bien où était l'entrée, il y avait des clôtures. Donc on savait pas très bien ce que c'était. Aujourd'hui, avec le concept de trame verte et bleue qui a été localement très largement décliné par Michel Desvignes sous le nom de chaîne des parcs, c'est vraiment l'idée de mettre en lien tous ces espaces-là, favoriser la relation entre tous ces sites par des mobilités douces, à pied, à vélo. On a les terris, on a les cavaliers c'est les anciennes assises de chemin de fer, et on a un territoire finalement qui est très maillé par ces espaces verts, alors qu'on a peut-être le sentiment qu'on habite dans un territoire qui est très dense, et c'est vrai, c'est un territoire très dense, on est dans un des territoires les plus peuplés d'Europe, on a presque 1000 habitants au kilomètre carré dans le secteur de l'agglomération lensoise, c'est beaucoup, mais on a cette chance extraordinaire d'avoir des milliers d'hectares d'anciennes friches industrielles qui sont devenus des espaces verts de reconquête, et voilà, il faut que les gens puissent aller les pratiquer, et pour ça, il y a tout ce travail autour de la trame verte, de la chaîne des parcs, qui est vraiment de qualifier les espaces, mettre des entrées, des parkings, des commodités, qu'on puisse trouver éventuellement de l'offre de services, louer un vélo, faire une petite balade en canoë. Voilà, c'est tout ça, c'est ce qu'on met derrière la trame verte et bleue. C'est aussi dans un espace qui est urbain, très fracturé par les infrastructures routières, c'est comment aussi on recrée de la biodiversité. Et sur nos terris, on a des espèces tout à fait exceptionnelles. On se retrouve avec des petites bêtes que logiquement on trouve que dans des milieux qui sont pas les nôtres, des milieux plutôt secs, et les terris justement sont propices au développement de ces espèces, et donc on trouve des crapauds calamites, du lézard des murailles, de la couleuvre à collier, qui sont pas des espèces particulières d'ici. On a aussi un certain nombre d'espèces de flore, et donc ça, voilà, c'est des lieux précis de biodiversité reconquise, ce qui est un peu un paradoxe, hein, dans un territoire qu'on a longtemps qualifié de non durable, et à juste titre. Aujourd'hui, on est dans une logique de reconquête.
Maxence, tu vas passer à la dernière question.
Quand on est allé sur les terris jumeaux, on a vu plein de gens qui couraient même dans les montées. Les terris, c'est aussi devenu un lieu super sportif, et vous y êtes pour beaucoup.
Alors ça fait effectivement très longtemps que nous, on est convaincus que les sports de nature sont d'abord quelque chose qui se développe de manière très importante, et il est toujours intéressant quand on fait nos métiers de suivre ce que sont les tendances en matière de pratique. Les sports de nature, c'est aussi des activités qui permettent facilement de découvrir les terris, qu'on soit à pied ou à vélo. Et donc depuis très longtemps, et en particulier dans le cadre du schéma de trame verte et bleue, et puis plus récemment maintenant dans le cadre de toute la stratégie qu'on appelle autour du Louvre-Lens, avec le contrat de destination qui place vraiment le bassin minier et le secteur d'Arras comme vraiment un lieu de destination touristique fort à l'échelle nationale, on est convaincu que les sports de nature peuvent devenir un véritable levier de développement pour ce territoire, et on souhaite développer des sites dédiés à la pratique des sports de nature, un peu sur le même concept que les stations de sport d'hiver, sauf que là on fera pas du ski, même si on peut en faire un de les mines, on fera du VTT, de la course à pied, de la randonnée, du vol libre aussi, hein, puisque les terris sont des espaces en hauteur qui permettent de s'envoler avec des parapentes. Et tout d'un coup, ça devient à la fois des loisirs de proximité pour les habitants de ce territoire, et on est très très nombreux sur ce territoire-là. Le bassin minier, c'est un peu plus d'un million d'habitants, l'aire métropolitaine de Lille, c'est 3 millions, et à 2 heures de tout ce territoire-là, vous êtes dans l'euro-région, Londres, Bruxelles, Paris, c'est 30 millions de personnes. Donc en termes de proximité, on a vraiment vraiment beaucoup de monde. Et si on est capable de développer une offre très qualifiée, eh ben on est convaincu qu'il y a des gens qui peuvent décider de venir passer du temps ici, un jour, 2 jours, 3 jours, et c'est comme ça qu'on développe finalement le tourisme.
Eh bien, Gilles Briand, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions, aux questions des élèves du collège Pierre et Marie Curie de Liévin. Je rappelle que vous êtes directeur d'études développement opérationnel à la mission Bassin Minier. Merci à vous. Voilà, on va peut-être, avant de passer à la suite, juste poser la question à notre autre invité présent sur le plateau, Serge Gaudouin, parler un petit peu de ce réseau, hein, le réseau Canopée, parce que tous les auditeurs ne connaissent pas ce réseau. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors Canopée, en fait, c'est une nouvelle appellation tirée d'un réseau qui existait déjà, qui était le CRDP, le Centre de ressources pédagogiques, mais avec une mission tout à fait renforcée, tout à fait nouvelle, auprès de la communauté éducative. Hein, en fait, on intervient en faveur de la réussite des élèves, et on est là pour accompagner un certain nombre de projets, aussi bien dans le cadre pédagogique que technique, pour favoriser justement la réussite de ces projets. Et le web documentaire avec le projet Raconte ta ville en fait partie.
Alors, je vous propose de rentrer de plein pied dans ce web documentaire. Voici un extrait donc de ce documentaire.
Créez nom de nom, et qu'est-ce que vous fichez là ?
Ça parle !
Eh, revenez, on peut causer quand même.
On peut causer qu'un tas de ferraille.
Eh, le tas de ferraille, il a travaillé avec vos grands-pères d'abord, alors un peu de respect s'il vous plaît.
Mon grand-père, il travaillait à la mine ?
Bah ouais, forcément, et toi ?
Pareil.
Ça vous intéresse un peu alors mon histoire ? Allez, grimpez, on va retourner au charbon.
Eh, attendez-moi !
Ça, c'est l'intro du webdoc que vous venez d'écouter. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait choisi comme personnage principal un ancien wagonnet de mine, donc on avait appelé Gervaise, et l'intro raconte la rencontre de plein fouet entre les élèves et la berline. Jérémy s'en souvient peut-être encore parce qu'il a dû refaire un certain nombre de fois son crash contre la berline, donc je sais pas, t'as encore des bleus de cette époque ?
Ah ouais, ouais.
Et la berline, eh ben, on a la chance de la voir sur le plateau, en tout cas la voix officielle de Gervaise, la berline. C'est Catherine Bacot, qui est donc professeure d'histoire-géographie de la classe de 5e F au Collège Curie, qui est avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es entrée dans la peau du personnage, si je puis dire ?
Eh bien, déjà, en tant que professeur d'histoire, ce projet donc m'intéressait véritablement. Et puis, moi, je suis en fait donc professeur d'histoire donc scientifique. C'est l'histoire, c'est pas une science exacte, c'est une science humaine, mais néanmoins, c'est très scientifique. Et d'un seul coup, jouer un personnage, eh bien, ça m'a tout de suite emballée. J'ai voulu donner une dimension un peu plus humaine à l'histoire, et j'ai vraiment pris ce rôle de Gervaise très au sérieux. Pour moi, bon, évidemment, l'épopée du charbon, c'était la révolution industrielle, c'était Stevenson, la machine à vapeur, c'était voilà. Et d'un seul coup, entrer dans ce, je vous dis, dans ce personnage, ça m'a emballée en même temps que mes collègues et mes élèves. Et on a réussi à faire quelque chose de à la fois très très intéressant, mais aussi ludique. Et je pense que on s'est révélés les uns aux autres. On a su se parler autrement que de professeur à élève. On s'est en fait découvert.
Oui, je pense que les élèves ne te contrediront pas là-dessus. Le webdoc, on l'a construit en trois parties, simplement pour montrer le passage et la reconversion du bassin minier. Donc, on est resté chronologique. Pour un prof d'histoire, ça aussi, ça a dû te parler.
Absolument.
On a donc démarré par le passé minier. Et là, il y a un élève qui s'est particulièrement collé à la tâche dans cette première partie, c'est Mohamed, qui a endossé le rôle d'un galibot, donc d'un jeune enfant mineur, lors de notre sortie, de la sortie de la classe au musée de la mine à Auchel. Nous avons été guidés par deux anciens mineurs que vous entendrez un petit peu plus tard dans l'émission, qui sont donc Daniel Vos et Jean-Yves Beauchamp, que je remercie là aussi parce qu'ils ont été d'une aide précieuse et humaine dans ce projet. Mohamed, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce rôle là encore que tu as endossé ?
Ah oui, c'était vraiment très très compliqué avec Jean-Yves qui remettait une couche. C'est vraiment compliqué. On devait monter des murs, détruire des pierres. On transpirait beaucoup avec la petite lampe là qu'on avait sur le front. Avec ça, avec le petit uniforme qu'on avait qui était bleu.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ressemblait l'uniforme que tu portais? On parle pas de costume d'ailleurs, ça Daniel et Jean-Yves ils tenaient beaucoup. Le costume, c'est ce que met un acteur pour endosser un rôle, et lui il disait que voilà, le travail à la mine c'est un vrai travail, donc il porte un uniforme et pas un costume.
C'était comme une chemise bleue avec un jean bleu, c'était tout bleu. Et en faisant cette action, je me sentais un peu comme mon grand-père, qui était mineur à l'époque, donc qui a travaillé à la fosse 4 de Liévin, aussi à Avion. Donc je me suis un peu senti comme mon grand-père.
Donc tu es retombé dans l'histoire familiale à travers ce moment-là, et je crois d'ailleurs que Daniel Vos lui aussi, ça lui a rappelé des souvenirs. Il était assez ému de coacher ou de montrer à un jeune les gestes qu'il avait accomplis toute sa vie lui dans son travail. Tu parlais de ton grand-père donc qui a été mineur à Liévin. Il y a une petite anecdote à ce sujet d'ailleurs.
Effectivement, mon grand-père, il travaillait à la mine Liévin une semaine avant le fameux coup de grisou qui a provoqué beaucoup de morts. Et ben, il a été transféré à Avion, dans la mine d'Avion.
Donc il a échappé belle, en fait.
Ah, très vrai.
On va vous faire écouter l'interview que les élèves ont réalisé de ces deux anciens mineurs donc à Auchel. C'est une des séquences phares du webdoc. Vous allez l'entendre tout de suite.
Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première descente au fond?
On a ressenti une grande angoisse.
Jean-Yves Beauchamp.
L'ascenseur, c'est une cage qui va très très vite. On a les oreilles qui se bloquent et on n'arrive pas à respirer. Et en plus, on ne peut pas se sauver. On est prisonnier. Voilà, on est sous terre, donc on est prisonnier.
J'ai commencé comme galibot.
Daniel Vos, président du musée d'Auchel.
Je suis descendu à la mine à 18 ans seulement. Parce que mes grands-parents et ma maman aussi ont travaillé à la mine. Donc ils ne voulaient pas. Parce que c'était trop dangereux, puis bon, trop sale aussi, puis on pouvait attraper la silicose.
Ça, c'est ma galibot. Ma galibot. C'est quoi un galibot?
C'est un enfant de 7 ans.
Et qu'est-ce qu'il fait comme travail?
Il rapporte le bois.
Et puis il pousse le charbon.
Oui.
Et puis il rallume les lampes.
Au fond de la mine, il y a beaucoup d'accidents. Vous savez, un caillou qui se décroche, ben, si vous êtes en dessous, vous pouvez vous retrouver remuflé, n'importe quoi. Moi, je m'ai cassé, j'ai fracturé de la jambe. Ben, c'est tout, c'est des accidents normaux. On n'y pense pas. Faut pas y penser.
Un jour, j'arrive dans un chantier, je rencontre le bout de feu, je le rencontre, je lui dis bonjour, ça va, oui, bonjour, je continue mon chemin. Et puis, j'arrive à l'angle du chantier, et là, j'ai vu le tir passer devant moi, quoi, carrément, ça explose. Et quand le gars, il m'a vu revenir du chantier, il a vu ma lampe allumée comme ça, il m'a dit, bah, d'où tu viens, toi? Bah, j'ai dit, t'aurais pu me prévenir que t'allais buquer, comme on disait. Et j'aurais fait 5 mètres de plus, j'étais mort en fait.
Et des coups de grisou, vous en avez connu, pour de vrai?
Des coups de grisou, oui, j'ai connu celui de Liévin, où il y a eu 42 décès. Ouais. Parce que je travaillais à l'étage en dessous. C'est 6 sillons K, et nous on travaillait à 6 sillons 6. C'est nous qu'on a essayé d'aller porter secours, mais on ne pouvait pas passer. Tout était effondré. Ça fait un immense souffle, tout se ferme, et puis on est prisonnier. Voilà.
Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas été travailler le lendemain. Hein. Même ce jour-là, on a continué à travailler.
C'est une personne qui se fait remuer, enfin, comme on dit, qui se fait tuer au fond. Ça prend que 10 minutes. On l'évacue, on nettoie le plus gros, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est à sa place. Et oui, on n'a pas le droit d'arrêter, parce que si on arrête, il y a un manque à gagner. Eh oui.
Et on disait pas, tu sais, maman, j'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui. Pas question.
Même le dimanche, quand on est au bal, si on rentrait, enfin le lundi matin, il fallait quand même aller travailler. Hein. On s'occupait pas, on partait, on était corbillés en dimanche, on partait travailler. Hein.
Mais vous avez quand même gardé des bons souvenirs de la mine.
Mon meilleur souvenir, c'est qu'il y avait une camaraderie qu'on retrouvera nulle part. Ça, c'est inouï. parce qu'on peut se disputer avec son voisin, on a quoi que ce soit, il est tout de suite là.
J'ai eu l'occasion de descendre au fond de la mine avec ma fille. On a parcouru la mine avec les tailles en exploitation, les galeries, tout ça. Et quand on est remonté, elle dit, papa, tu l'as tellement raconté, la mine, que tout ce que j'ai vu au fond de la mine, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Voilà.
Mais quand ma fille est venue au monde, ma femme a dit, mais mon mari travaille. Et ils ont téléphoné au fond pour me prévenir. Mais je ne pouvais pas remonter.
C'était un extrait de la première partie du webdoc du Noir au Vert avec deux anciens mineurs donc, du musée de la mine d'Auchel qui nous ont parlé et qui ont transmis aux élèves leur fierté d'avoir travaillé à la mine. Alors j'avais envie de vous demander aux uns et aux autres qui êtes ici élèves autour de ce plateau de nous dire ce que vous avez eu l'occasion de faire dans ce webdoc et dont vous êtes le plus fier. Alors Mohamed, je pense qu'on a compris quelle était ta séquence préférée. Alan.
Moi, c'est vraiment interviewer les deux anciens mineurs parce que on voit qu'ils ont pas perdu la main en fait et ils ont toujours ça dans leur cœur et ils évoquent, ils partagent comme ça sans voilà normalement quoi.
Pour eux, ils ont toujours la passion du métier en fait.
Voilà.
Jérémy.
Du coup, moi, c'était quand on a été interviewé et filmé les Saprofit et moi, j'avais été photographe. Et ça m'avait plu leur projet qu'ils faisaient pour que la ville soit meilleure. Et on voit qu'ils étaient à fond dedans et ça c'était bien.
C'était pour resituer, c'est un chantier participatif qui a été mené par deux associations, les Saprofit et les Blongios, sur la cité belgique de Losangoël. Et c'est un projet mené avec les habitants du quartier pour réinventer, créer une aire de jeu sur le quartier, etc. Et donc à cette occasion, donc tu avais pris des photos.
Beaucoup de photos.
À peu près 12 000 photos qu'il a fallu regarder ensuite pour dérocher tout ça. Mohamed veut ajouter quelque chose.
À part vraiment quand j'ai joué Galibou, j'ai bien aimé quand on était avec Jérémy et William, qui est un public, qu'on avait fait l'intro avec Gervaise. C'était marrant.
Donc, l'intro avec Gervaise, elle se poursuit un peu plus loin dans le webdoc avec une fiction sonore qui a été construite avec les bruitages de machinerie des archives sonores du centre historique minier de Le Ward et dans laquelle Gervaise joue un très sale tour aux élèves qui l'ont un petit peu cherché en même temps. Mais là, je vous laisserai découvrir ça dans le webdoc. On passe à Clara, peut-être. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, dans ce travail ? De quoi tu as été le plus fière ? La plus fière.
Ce que j'ai été le plus fière, c'est dans...
Approche-toi du micro.
Que j'ai été caméraman, que j'ai aussi pris en vidéo les personnes qui parlaient. Avoir du moteur, ça tourne, action coupée.
Oui, alors sauf que tu l'as pas dit comme ça, et il y en a qui s'en souviennent encore. Monsieur Calin, son CD2E, se souvient encore de ta façon très autoritaire de dire
« Coupée !»
Et derrière, effectivement, il n'osait plus rien dire. Alors, suite à cette première partie sur le passé, qu'est-ce qui se passe pour notre berline, pour Gervaise ? Qu'est-ce qu'on a fait et en quoi consistent les deux autres parties du webdoc, Mohamed ?
Après la mine, on est remonté sur le carreau de fosse et on a ramené Gervaise en 11-19 pour lui faire découvrir tout ce qui avait changé de bien.
Forcément, il y a des terris d'abord. Des plantes, des animaux vivent maintenant sur leurs pentes. Espèces migratoires, plantes qui poussent sur les volcans.
Gilles Briand en a parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, il y a maintenant sur les terris des espèces qui n'étaient pas du tout prévues pour vivre là, qui se sont développées grâce à cet écosystème particulier.
Oui.
Ensuite,
il y a la salle des pendus. C'est devenu une salle de spectacle avec Culture Commune, la compagnie HVDZ, qui crée des spectacles avec les habitants du quartier. Ça s'appelle Déveiller. Et certains d'entre nous, on a même joué une scène avec eux.
Alors, une veillée, c'est faire le portrait d'un endroit à partir de la rencontre avec les gens. Donc, c'est un film-spectacle qu'on fait avec et pour les gens. Alors, on est nombreux quand on fait ça, on est un collectif, on intervient 5, 6, 7, 8, ça peut aller jusqu'à 10 sur un quartier, mélangeant des gens qui font de la vidéo, des comédiens, metteurs en scène, vidéastes, et parfois des gens qui font des arts plastiques. Et on intervient sur ce quartier pendant une dizaine de jours.
Comme une lutte des classes.
Et pour faire en sorte que l'art et la culture soient au service des gens et de la transformation sociale et que chacun et chacune soit amené à vivre poétiquement les lieux qu'il habite.
C'est à la fois un lieu où les gens peuvent parler, s'exprimer, dire leur point de vue, et c'est aussi un endroit où on met en relief ce qui existe, tout en tenant compte effectivement de la mémoire de cet endroit, de la mémoire de ce lieu. Voilà.
C'était Didier Cousin, donc, qui est comédien à la compagnie HVDZ, qui était venu faire une intervention au collège auprès de la classe pour expliquer ce qu'étaient ces veillées, donc ces spectacles participatifs, là encore, avec la population. Donc effectivement, les terris ont changé d'occupation, la salle des pendus, la salle des machines aussi, Clara, a changé.
La salle des machines, c'est où on a installé aujourd'hui le CD2E qui travaille sur les mouvements. Nouveaux matériaux et les nouvelles énergies comme les panneaux solaires de l'UNEWAT pour les logements, une ville plus durable.
Donc là, on est sur le site de la plateforme LumiWatt, qui est une plateforme qui a été créée il y a 10 ans à l'initiative de la mairie de Le Sangoël, du CD2E, et également deux partenaires industriels, EDF et FH. La vocation première, c'est de comparer les technologies photovoltaïques qu'on a derrière nous dans les conditions d'ensoleillement qu'on a en Nord-Pas-de-Calais. Puisqu'il y a toujours un a priori par rapport au soleil. Dans une maison individuelle, hors chauffage électrique, on consomme à peu près 3500 kWh d'électricité par an. Le générateur que vous avez derrière moi produira l'équivalent de 3500 kWh sur l'année. Ce qui est sûr, c'est que le mix énergétique de demain, ce sera un mélange, ce sera un mix, où il y aura du photovoltaïque en grande partie, puisqu'on a une rentabilité très forte et une possibilité de le mettre facilement sur les maisons individuelles. On aura de l'éolien, plutôt de grande puissance, comme on va installer à Dunkerque en offshore. Puis on aura de la méthanisation qui produira également de l'électricité. Et on aura du nucléaire, on aura toujours du gaz.
Bon bah, vous qui êtes à pro de l'énergie, vous n'aurez pas un truc pour que nos berlines puissent enfin rouler toutes seules?
Alors Gervaise, on va te faire rentrer dans la troisième révolution industrielle. On va te rendre autonome avec des panneaux photovoltaïques.
Oh là 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 là, je suis contente, oh merci.
Bah oui, il n'y avait pas de raison que Gervaise reste comme ça dépendante du charbon. Elle aussi est passée dans le 21e siècle et a été équipée gracieusement de jolis petits panneaux solaires pour qu'elle puisse vadrouiller toute seule. Fin de cette deuxième partie, partons sur le présent. Qui a-t-on rencontré après, Jérémy?
Enfin, on a rencontré Jean-François Caron. Ça fait des années maintenant que Le Sangoël est reconnue comme ville pilote du développement durable. Alors, si vous aussi, vous voulez que votre ville devienne plus durable, voici le mode d'emploi.
Il y a l'idée d'être autonome en énergie, donc d'être capable d'économiser l'énergie et pas, par exemple, laisser la chaleur s'échapper bêtement des bâtiments ou des maisons, et donc consommer moins, mais aussi produire de l'énergie renouvelable, par exemple avec le solaire, la géothermie, la production de biogaz par les déchets agricoles ou les déchets de repas. Il y a plein de pistes. On a encore 15 agriculteurs à l'os, 15 fermes. Et c'est d'aider ces fermes à développer un réseau de vente directe produit dans un rayon de 10 km autour par des gens d'ici. Renforcer tous les métiers de l'économie d'énergie. On a la Fondation d'Auteuil qui forme des jeunes à tous les nouveaux métiers de l'éco-construction. Un autre objectif, c'est de faire du tourisme sur le développement durable, sur l'histoire de la Grande Guerre, et puis le tourisme de l'UNESCO, puisque l'histoire minière, ça fait partie de l'histoire du monde et ça intéresse de plus en plus de gens. Donc c'est un grand projet de vivre mieux.
Voilà, alors faire du tourisme dans le bassin minier, pour beaucoup de gens, ça ne va pas encore de soi. Et pourtant, vous avez rencontré quelqu'un qui y croit à 100%, Cécile.
Oui, j'ai rencontré il y a quelques jours Aurore Rouflard. Alors Aurore Rouflard, elle est guide conférencière. Elle connaît la région par cœur. Elle déborde d'énergie. Alors elle pouvait pas être avec nous aujourd'hui parce qu'elle est en train d'accompagner justement un groupe en visite guidée. Mais elle vous a laissé un petit message, écoutez.
Alors, bonjour à tous. Je vais commencer en vous posant une question. Si demain vous avez besoin de sortir pour faire autre chose que des boutiques, vous allez faire quoi dans la région? En tout cas, autour de vous, dans les 20 km autour de chez vous, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je suis sûre que c'est une question à laquelle, peut-être, vous ne savez pas répondre. Dans la mesure où, aujourd'hui, on vit dans une région dans laquelle il y a un vrai déficit de notoriété, parce que, clairement, le cliché national et même local, c'est de dire que dans le Nord, il pleut et il n'y a rien à faire. Et tout ça, c'est absolument faux. C'est complètement faux. Regardez par votre fenêtre. Et vous allez voir qu'au-delà des terris, des corons, ces jolies petites maisons bien alignées, les petits jardins bien tenus, il y a plein de choses. Alors déjà, Vous qui êtes à Liévin, il vous suffit de faire quelques pas et d'aller dans cet endroit qui est aujourd'hui un élément central de la culture de la région qui s'appelle le Louvre-Lens. Alors le Louvre-Lens, oui, je sais, vous allez me dire les musées c'est chiant, c'est pas forcément très intéressant. Eh bien justement, ce musée est fait pour les jeunes comme vous. Ils ont toute une série d'activités de médiation pour des jeunes qui ont envie de découvrir l'art autrement. Ça coûte même pas cher, parfois c'est même gratuit, il faut regarder la programmation, il se passe plein de choses, il y a des festivals, il y a de la danse, il y a de la musique. Il y a quelques années, je sais qu'il y a eu un festival de bande dessinée. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire déjà là. Et puis parce que justement, on parlait de la mine, vous pouvez vous balader dans le parc. Le parc fait 20 hectares et ce parc, c'est un ancien carreau de fosse. Le carreau du 9-9 bis, d'ailleurs, il y a la maquette hein, de ce qu'était le site avant le musée dans le hall. Et puis après, bah, il suffit de regarder autour de soi. Au-delà de la valorisation du patrimoine industriel, vous avez toute une série de sites qui ont été classés, requalifiés en réserve naturelle, en zone de balade, en zone de pratique sportive également. Puis après, si vous avez aussi envie de sortir de la mine et de cette thématique-là, il y a plein d'autres choses à faire. Pas loin de chez vous, il y a une ville qui s'appelle Arras. Et là, c'est un théâtre, c'est un décor de théâtre absolument magnifique. Il y a deux places classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, un des plus beaux beffrois de la région et également un ensemble d'architecture art déco. Le tout dans une ville à taille humaine. Et puisque je vous parle de l'art déco, on va faire aussi la liaison parce que l'art déco, c'est l'art qui se développe dans les années 30. Et cet art des années 30 est le résultat, la conséquence d'un événement qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact dans notre région, qui est la Grande Guerre. Notre région a été coupée en deux. Il y a une espèce d'immense cicatrice de 20 km de large. Dans notre région, c'est à peu près 600 000 hectares qui ont été dévastés par cette Grande Guerre. Et aujourd'hui, il y a énormément de cimetières. Alors, je sais, c'est pas super gay, mais en tout cas, si vous avez envie d'avoir rendez-vous avec l'histoire, il faut aller voir ces cimetières parce que ça, c'est aussi une vraie démarche citoyenne. Et en ce moment, c'est important de le faire. Vous avez une quantité d'éléments historiques à découvrir tout autour de chez vous. Et pourquoi je vous parle de l'art déco ? Tout simplement parce que tous ces territoires-là, mais même Liévin et Lens, hein, Lens, en 1918, les gens sont obligés de compter l'état de maison pour retrouver la leur, hein, enfin l'état de gravats pour retrouver leur maison. Hein. Donc, tout a été dévasté, ce qui fait que après la Première Guerre mondiale, on va reconstruire la région. Et le style qui est à la mode à cette époque, c'est l'art déco. Donc, on a un très, très, très grand ensemble d'architecture art déco disponible sur l'ensemble de la région. Et ça, je pense que pour vous, ça peut être une découverte. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire encore dans le coin ? Ben, vous pouvez aller vous balader dans les châteaux. On a de très beaux châteaux. Alors, il y a le château d'Olin, ça c'est pour les amoureux de l'art médiéval. Il y a le château de Barly, qui est un château privé entretenu par des amoureux. C'est un château du XVIIIe siècle. Vous pouvez aussi aller marcher sur la Via Francigena. Ça aussi, c'est un bout d'histoire. C'est une des routes de pèlerinage donc, qui partait à l'origine de Canterbury, qui traversait l'ensemble de notre région et qui allait comme ça jusqu'à Rome. Et tout au long de cette route, il y a des légendes, des histoires, ce que vous pouvez aussi retrouver sur la chaussée Brunéo. Alors là, je vous laisse le plaisir d'aller découvrir qui était cette charmante personne qui a assassiné à peu près de la moitié de sa famille, donc qui était Brunéo, et ce qui lui est arrivé. Vous allez voir, c'est charmant, mais là, je vous laisse aller voir par vous-même. En tout cas, en attendant, bah, je vous souhaite à tous une bonne balade, et n'oubliez pas de découvrir et d'aimer votre région.
La suite de cette émission spéciale en direct du collège Pierre et Marie Curie de Liévin, émission spéciale donc consacrée au web documentaire du Noir au Vert des élèves de 5F de ce collège. C'est dans 5 grosses minutes sur Radio Plus, juste après la pub. Vous êtes